Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver une fois de plus, comme tous les premiers lundis du mois, pour 1h30 de pur kiff musical. Cette émission de décembre marque déjà la fin de 2 années passées en votre compagnie. Les 25 précédentes nous ont permis de comprendre que la Cité Métisse n'est pas qu'une émission de radio, mais elle est pour nous une philosophie de vie. L'acceptation d'autrui passe par le fait d'être dans la compréhension de sa culture, sans jamais porter le moindre jugement. L'éveil des consciences est la clé de l'obscurantisme. Elle n'est pas utopique, elle est bien réelle. Et nous avons bien l'intention de continuer à propager cette déferlante d'ondes positives. Nous avons comme ambition de mettre tout Marseille et ses environs en mode la cité métisse.
Bonsoir Fred, bonsoir Laura.
Salut Richard, salut tout le monde.
Une pensée pour Séverine qui n'est pas parmi nous ce soir. Gros bisous à toi Séverine.
Gros bisous Sev.
Ce soir, nous avons décidé de manière collégiale de terminer l'année en beauté avec la venue non pas d'un mais de 2 musiciens d'exception. Ils n'ont pas eu un moment de répit tout cet été avec une série de concerts effrénés sur différentes scènes varoises. Elles chantent divinement bien en portugais. Lui joue remarquablement de la guitare. Tous les deux mélangent le jazz, les musiques brésiliennes et afro-américaines. Ils forment un quartet avec Arnaud Massini à la basse et Jessie Rakuto Manga à la batterie. Je dois vous avouer que cela fait un petit moment que nous souhaitons les recevoir au sein de notre émission. Et ce soir, comme par magie, ils sont là. Ne perdons plus de temps. Je vous demande d'accueillir sans plus attendre Andrea Caparros et Émile Mélenchon du Andrea Caparros Quartet.
Salut.
Bonsoir Andrea.
Salut Andrea.
Salut les gars.
Salut.
Vraiment honoré de vous recevoir ce soir, tous les deux, en live au sein de notre émission La Cité Métisse sur le plateau de Radio Galère.
Donc au sommaire de cette émission les amis, la fameuse petite chronique en fait de Richard sur l'histoire de la musique brésilienne, donc grosse pression et tout en présence d'Andrea, donc fais gaffe à ce que tu vas dire Richard. Et enfin le temps fort de l'émission, donc découverte de l'univers musical de nos musiciens du jour, Andrea Caparros et Émile Mélenchon.
Bienvenue sur La Cité Métisse, vous êtes avec Richard sur Radio Galère 80.4 FM à Marseille.
Enchaîné très vite, le lundi en ville. Mardi on tape à Bercy, les concerts ont grossi. Fini la ferraille à vie, la scène devient mon tatami. J'y ai combattu et je m'y suis fait un tas d'amis. Ça dure depuis un tas d'années. C'est dire si on est béni avec nos têtes de condamnés. On a tracé jusqu'en Chine, parti des racines. Regarde-nous remonter jusqu'au cime. De l'amour plein le panier, nous enfants de Rakim. Ce son c'était une limousine. Face au vide, sûrement la meilleure des médecines. Médecine. Point de ralliement pour tous les cousins et cousines. Voir leurs yeux qui brillent et le sourire fleurir. Ouais, tu connais la team. Alors c'est sûr, ma vie n'a rien de banal. Très tôt, je l'ai capté. Bien plus que les annales, ce sont les cœurs qu'on a marqués. Y a eu des très hauts, des très bas. C'est vrai, mais ma mémoire, personne ne l'effacera. C'est vrai.
Ce que je retiens, l'énergie et les sourires jusque tard. Dreams break away and just flow by me. Sounds
tides of summer make me fly. Take your love and let's just be set free. It's fine time, it's fine time. It's fine time, it's fine time. It's fine time, it's fine time.
It's fine time,
it's fine time. It's fine time, time, time.
La Cité Métisse, Radio Galère. 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci Fred pour l'ensemble en fait de ces morceaux, que pour la première en fait pause musicale. Donc en première instance on a entendu Rodolphe Loretta, Crayola, donc c'est un titre en fait éponyme justement de son album 11 titres qui est sorti en 2021. Deuxième morceau, est-ce que j'ai besoin en fait de les présenter, c'était Ayam en featuring justement avec leur membre effectivement actif, leur chanteur Saïd. Le titre c'était Au Final. Donc c'est un EP 6 titres qui est sorti toujours pareil en fait cette année, troisième vague. Et enfin, le dernier morceau justement qu'on a joué, donc c'est Le Commandant Cousteau. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vous expliquer après justement qui c'est ce personnage. Donc featuring Omar. Et avec un morceau justement qui se nomme en fait L'été indien. Donc c'est un single de 2021. Donc comme je fais d'habitude en fait, il y a des brèves explications justement sur l'ensemble des artistes. Je vous ai déjà parlé en fait de Rodolphe Loretta. Je réitère un petit peu mes explications. Donc c'est un jeune homme et tout justement qui est né en fait à Amiens de parents guyot-antillais. Donc le saxophoniste en fait Rodolphe Loretta sort son premier album Raw, préfacé en fait par Jacques Schwartzbartz, donc qui a été enfin pour ceux qui connaissent le saxophoniste en fait de Royal Grove qu'on a passé il y a pas si longtemps que ça, et D'Angelo. Donc et Alain Jean-Marie en 2017. Donc son prochain album justement en fait qui est sorti récemment en octobre, donc c'est Crayola, souligne en fait les influences en fait hip-hop caribéenne, future funk en fait du saxophoniste. Donc dans ce morceau, donc vous pouvez entendre effectivement après notamment la fin en fait du son, il y a des espèces en fait de consonances et tout de drill. Donc on avait déjà passé en fait un morceau donc de drill un peu UK. Donc c'est une dérive effectivement après un peu de la mouvance en fait hip-hop contemporaine. Donc ça vient des États-Unis, après les Anglais et tout ont repris tout à leur mouture. Donc on avait déjà passé justement un jingle et tout de cet ordre, c'était dans l'émission justement de Stéphane Casserie, je ne sais pas si vous vous rappelez en fait des collègues. Donc là, vers la fin effectivement du son, il y a vraiment cette belle empreinte là. Donc c'est pour ça que j'aime bien justement cette fusion de morceaux jazz, funk, drill. Voilà, on entend en fait de nouvelles sonorités qui nous changent et qui nous titillent un petit peu en fait nos oreilles. Le Ayam, je vais pas présenter en fait Ayam, hein, donc voilà, je vais passer directement en fait au commandant Cousteau. Derrière en fait le commandant Cousteau se cache donc ce personnage qui s'appelle Anthony en fait Malka. Donc c'est un claviériste de génie basé à Berlin. C'est un membre du groupe funk de Wu. Alors il profite de la mise sous silence en fait de sa formation titulaire pour s'entourer en fait d'un magnifique orchestre de claviers et offrir en fait un premier EP. Paru sur les très recommandables labels BMM Records. Et il est en featuring avec Omar, donc pour être plus précis en fait, Omar Lee Fock. Donc c'est né à Londres le 14 octobre 1968. Donc enfin il apprend à jouer de la trompette, du piano, de la batterie, ce qui lui permet d'entrer en fait dans l'orchestre de jeunesse du comté en tant que percussionniste principal, puis à l'école de musique de Manchester. Dans les chœurs, il restera 2 ans. Donc à l'âge de 22 ans, il sort son premier hit, There's Nothing Like This. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez en fait les collègues, mais moi j'adore en fait ce morceau, ne serait-ce que les quelques petites premières notes en fait de musique, c'est un pur kiff, même 22 ans après. Donc voilà en fait pour cette première pause musicale. Alors comme on a une émission en fait assez chargée comme les précédentes, cette fois on va attaquer avec notre ami Richard, j'ai envie de dire le professeur Richard, sur l'histoire de la musique brésilienne.
Oui, le Brésil, alors 9e puissance économique mondiale, première puissance d'Amérique du Sud, terre où le faste côtoie la misère des favelas, est forte d'un lourd passé. Le Brésil, c'est aussi le football, les plages de Copacabana, le carnaval de Rio, la samba, la feijoada, le Christ rédempteur au sommet du Corcovado. Chacun y trouvera son qualificatif pour décrire ce pays. Mais le Brésil, c'est aussi un riche héritage musical dont les origines remontent au temps de la colonisation. issus d'un métissage des cultures portugaises, amérindiennes et africaines, la musique brésilienne s'est progressivement développée au fil des années et a même donné naissance à une grande variété de genres, aux caractéristiques propres selon les traditions régionales. Tout commence à basculer au début du XVIe siècle avec l'arrivée des premiers colons portugais. Les premiers massacres ont lieu, mais on assiste aussi au premier métissage, les caboclos. Fin du XVIe siècle, des prêtres jésuites arrivent au Brésil avec pour objectif d'évangéliser ces tribus païennes. Ils vont pour ce faire associer la culture chrétienne aux traditions locales. Musicalement, par exemple, ils vont transmettre des mélodies européennes auxquelles ils ajouteront des paroles dans la langue native du pays. Les colons font déporter plus de 3 millions d'Africains pour venir travailler dans les champs de canne à sucre. Cette sombre période de l'histoire du pays se terminera à la fin du XIXe siècle avec l'abolition de l'esclavage. Les esclaves restent fidèles à leur religion. Le batuk est une fête rythmée au son des percussions, rendant hommage aux ancêtres et aux divinités. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la musique brésilienne est majoritairement d'ordre religieux. Puis un genre musical fait son apparition, la modina, fortement influencée par la moda portugaise. Au XVIIe siècle, la moda était le genre mélodique très prisé dans les salons de l'élite portugaise. Avec la colonisation, ce style musical arrive au Brésil en tant que musique de l'aristocratie et de l'élite. Peu à peu, elle se fait accepter par les masses jusqu'au XVIIIe siècle. Le XIXe siècle marque une étape cruciale dans l'histoire du pays. Le roi Jean VI du Portugal et sa cour doivent venir s'exiler sur les terres brésiliennes en 1808, après avoir fui l'invasion napoléonienne. Ils prennent leur quartier à Rio de Janeiro. Au sein de sa cour venue de Lisbonne, Jean VI fit également venir des musiciens et des compositeurs. Antonio Carlos Gomes est un parfait représentant de cette époque. En 1867, son opéra de Guarani reste son œuvre la plus connue et surtout le seul opéra latino-américain encore joué aujourd'hui sur des grandes scènes. Il y avait également Chiquinha Gonzaga, première femme chef d'orchestre au Brésil, auteur de la première marche carnavalesque de l'histoire composée en 1899. Que de chemin parcouru pour arriver à cette identité nationale de la musique. Il aura fallu près de 3 siècles et de nombreux croisements de genres pour que l'âme brésilienne se fasse plus imposante. Mais le XXe siècle, c'est aussi l'âge d'or du choro, l'époque du modernisme brésilien et la naissance du genre le plus représentatif du Brésil, la samba. La musique brésilienne a développé des styles uniques et originaux tels que forró, repente, coco de roda. La samba est devenue la meilleure forme de musique brésilienne dans le monde entier, en particulier à cause du carnaval du pays. Bien que la bossa nova, qui avait Antonio Carlos Jobim comme l'un de ses compositeurs et interprètes les plus acclamés, ait reçu beaucoup d'attention à l'étranger. Depuis les années 1950, lorsque la chanson « Desafinado » interprétée par João Gilberto est d'abord sortie.
Merci Richard en fait pour ce très bel article. En fait j'avais une question et toi Andrea, je voulais savoir justement si toi tu te retrouvais effectivement un peu, puisque toi tu es la spécialiste en fait de la musique brésilienne, dans ce que nous dit effectivement Richard. Est-ce qu'il a... En fait moi ce que je veux savoir c'est s'il a juste. Parce que là en fait il y avait une petite pression.
Je pense que Richard a dit un millième de tout ce qu'il y avait à dire sur le Brésil justement parce que c'est... Ouais, c'est incroyable le Brésil, c'est la mixité, c'est le mélange des cultures, c'est incroyable. Donc y a...
Et c'est très, très, très vaste. Quoi.
Et c'est très vaste. Et ce qui est rigolo aussi, c'est même dans le paysage, c'est pas que dans la culture, c'est aussi dans le paysage. Par exemple, tu vas à Rio, tu te retrouves, tu as une banque, un bâtiment qui fait 12 étages, magnifique, avec des ascenseurs en marbre, tu vois. Et puis juste à côté, tu as... un cafouche tout pourri où t'as une famille qui habite quoi, c'est et c'est ça qui est hallucinant. Donc sinon t'as voilà une t'as un bâtiment qui est tout neuf, tout magnifique, et juste à côté ben tu as voilà t'as la misère, quoi.
C'est le paradoxe.
C'est la mixité, voilà. Le paradoxe, et puis voilà, c'est ce mélange.
Bon, on s'est rendu compte, on avait fait la deuxième émission qu'on avait fait, justement, on avait reçu un groupe de cinq chanteuses, justement, à Guanaboca, qui chantaient des musiques brésiliennes. On s'était rendu compte, puisqu'on avait commencé un peu à étudier, justement, la musique du Brésil, qu'il y avait énormément de styles, en fait, de musique traditionnelle. Bon, là, après, on parle du foro et tout, etc., mais il n'y a pas que ça.
Oui, donc, le choro, le foro, il y a la samba. Et puis même dans la samba, tu as des sous-catégories. Tu as la samba enredo, par exemple. C'est la samba qui est créée seulement pour le carnaval. Mm. Donc c'est-à-dire que toutes les écoles de samba vont tous les ans créer une samba, la samba de leur école. Et il va y avoir une qualification de la meilleure samba donc, de chaque état. Donc à Rio, par exemple, tu as je ne sais combien d'écoles de samba, Mangueira... Bon, etc., etc. Et chacun présente sa samba enredo, donc la samba du carnaval. Mais après, tu as aussi la samba de la plage, tu as la samba de la rue, tu as plein de sous-catégories, et du coup, c'est marrant parce qu'eux, ils disent c'est la samba de la plage ou la samba de la rue.
Dans tous les cas, c'est la samba de quelque chose. Ouais. Voilà. Et ce quelque chose, ça peut être la samba enroda, c'est la samba de la table, autour de la table. Ça se joue autour de la table. La samba enredo, ça se joue pour le carnaval, etc. Et en fait, on joue de la samba, mais c'est pas vraiment un style particulier. C'est juste que
en
c'est
fonction
la samba,
de l'état d'esprit.
Voilà, en fonction de l'état d'esprit, en fonction du lieu où est-ce que tu le joues aussi, tu vois. Donc,
samba d'Aroda.
On pourrait dire la samba du lac au canard. Tu vois ce que je veux te dire? Non, mais ça fonctionne un peu comme ça. Pour ma part. Quoi.
Ouais, ça démultiplie effectivement après les.
C'est vrai que nous on dit la samba, mais au final eux pour eux c'est pas la, c'est pas le. En plus c'est le samba, c'est pas la samba, mais c'est le samba de quelque chose. D'accord, c'est le samba du bar, le samba de la plage, le samba de la rue.
Ok, d'accord. Donc vaste sujet, Rissard.
Radio Galère 88.4.
Salut à tous, c'est Stéphane Castry et j'écoute La Cité Métisse avec Séverine, Richard, Defray et Laurent sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. À bientôt.
Donc, le temps tant attendu, comme on le dit à chaque fois, en fait, du temps fort de l'émission. Donc, justement, on a essayé de poser les choses, en fait, cette fois, puisque, comme je vous disais, en fait, en début d'émission, c'est la dernière de l'année, pour essayer de bien rentrer dans l'univers, justement, en fait, d'Andrea et d'Emile, pour bien les découvrir. Et puis après, on aura la chance, après, justement, après, de les découvrir, toi, en live, pour essayer de les connaître, de comprendre, en fait, qui ils sont vraiment. Et bien entendu, après, de mettre en avant, bien entendu, leur aspect musical. Et déjà, encore merci à vous d'être présents tous les deux, en fait, sur le plateau, d'avoir fait le déplacement, en fait, de votre Var natal.
Merci à vous de nous accueillir, ça fait très plaisir.
Ouais, c'est super sympa. D'habitude, en fait, on est galant et tout, etc. Mais là, en fait, on va pas l'être. Excuse-moi, en fait, Andrea, on va commencer par Émile.
Pas cool.
J'avoue. S'il y avait Séverine et tout, elle nous taperait sur les doigts. Bon, j'espère que Séverine, vous en voudra pas.
Que tu reviennes.
Séverine, reviens, elle est toute seule. Non, on va commencer, je suis désolé, on va commencer par Émile.
Garde le meilleur pour la fin.
Exactement.
Ah,
bravo.
Je préfère ça.
Ah, toi, t'es fort. Ouf, tu m'as sauvé. je suis... L'émission est sauvée, là. Non, non, non. On voulait savoir, en fait, Émile, justement... en fait, peux-tu nous en dire un petit peu plus, en fait, s'il te plaît, sur tes débuts, justement, en fait, dans la musique?
Sur mes débuts.
Bah, t'es plus lointain, en fait, souvenir.
Mais plus lointain, souvenir. Comment je suis tombé là-dedans?
Exactement.
C'est très simple, hein, au final. Donc, issu de famille pied-noir espagnole, donc on est assez nombreux dans la famille, du côté de mon papa.
Mm-hmm. Beaucoup trop nombreux. je commente, hein.
Et donc du coup, c'est vrai qu'on se voyait beaucoup. Enfin, ils sont 10 frères et sœurs, plus ils ont chacun eu des enfants. Du coup, on est à peu près 25-26 cousins. Enfin,
wow.
Et donc à chaque fois, c'était tout le temps des fêtes de famille où c'était un peu, entre guillemets, le bordel, si je puis dire.
Ouais,
et dans ces fêtes de famille, il y avait toujours, à un moment donné dans la soirée, une ou deux guitares qui sortaient et ça chantait. Parce que, bon, bien sûr, c'était un mélange, une mixité de pieds-noirs espagnol, italien. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, ça chantait en italien, ça chantait en espagnol, ça chantait en français aussi, parce qu'ils adorent la variété française, on va dire. Et donc, moi, j'ai été un peu bercé là-dedans, mais tout en étant amateur, quoi. Il y a personne qui il y a que moi qui suis professionnel à l'heure d'aujourd'hui dans la musique, dans ma famille, on va dire, et une cousine à moi qui est danseuse aussi, qui est aussi professionnelle.
D'accord.
Mais et moi, je tout est parti de là. En fait, ils n'arrêtaient pas de jouer un morceau tout le temps. Tout le temps. Et en fait, ce morceau-là, il m'a marqué. Et un jour, mon père part travailler.
Mais excuse-moi, t'avais quel âge?
J'avais 7 ans.
Voilà, ok.
Un jour, mon père part travailler et je prends sa guitare en douce, parce qu'à l'époque, il fallait pas toucher la guitare à papa.
Ouais.
Et je commence à chercher ce morceau qu'il jouait tout le temps.
À reproduire.
En fait, commence par une ligne de basse.
D'accord.
Et en fait, je le trouve. Je trouve la ligne de basse. C'est rien, hein, y a 4 notes, hein, tu vois.
Ouais.
Mais je trouve la ligne de basse. Et en fait, mon père rentre du travail et il voit que la guitare, elle avait bougé. Et il dit à ma mère, la guitare, elle est où? Qui c'est qui a touché la guitare, pardon? Et ma mère dit, Émile, il a chopé la guitare aujourd'hui, il a joué un peu. Il a dit, ah bon? Mais c'est génial. Enfin, en fait, je ne voulais pas la toucher, mais il était trop content que je l'avais touché.
Ouais, forcément.
Et donc, il vient me voir, il me dit, qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, j'ai fait ça.
Il lui a mis une gifle? Ah non.
mauvais commentaire. Et donc, après, en fait, j'ai joué le morceau.
Ouais.
Et du coup, il était super content. Et il m'a appris la suite.
D'accord.
Et après, en fait, c'est parti de là. Et ce morceau, c'était un morceau de Paco de Lucía.
Ok.
Le morceau qui s'appelle Entre deux aguas. Et en fait, ça commence par une ligne de basse. Et moi, c'est ça, je suis rentré là-dedans comme ça.
D'accord.
Et en fait, je suis allé un peu plus loin après dans l'écoute de Paco et tout, etc. Et c'est là où j'ai découvert vraiment le monstre, c'était quoi.
Mais du coup, là, en fait, tu dis que ton papa, en fait, justement, t'a enseigné et tout, etc. Donc, t'as pas eu besoin, en fait, d'assister à un cours et tout particulier.
Ah oui, mais ça après. Ah. Là, tu m'as demandé le début.
Ouais, bien sûr, d'accord.
Donc,
d'accord.
Le début, en fait, c'est mon père et ma famille qui m'ont donné le goût à ça.
D'accord.
Et après, quand mon père a vu que... Quand il m'a appris la suite, je l'ai, entre guillemets, mangé, comme on peut dire maintenant dans le jargon pour les petits,
bien sûr.
C'est des éponges.
Ouais.
Il a vu que j'avais vraiment envie, il m'a mis à l'école après. Et après, j'ai fait mon chemin.
D'accord. Quel est le musicien, justement, en fait, qui parlait clairement, en fait, a mis une grosse claque? Justement, après, dans ce style, en fait, musical.
C'est compliqué à dire parce que quand t'es gamin, tu peux pas prendre conscience vraiment de l'ampleur des choses, du niveau du truc, surtout quand tu commences, quoi.
Mm-hmm.
Parce que des claques, j'en prends encore aujourd'hui, tu vois. Par des musiciens, tu vois.
Mais si on reste dans l'ordre chronologique, arrivé à cet âge et toi, etc., tu as vu un musicien et tu t'es dit...
Alors, je pourrais pas dire une claque, mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est l'aisance. Avec l'harmonie et l'instrument. C'est-à-dire que Paco, lui, m'a profondément touché quand j'étais petit, et puis il continue à me toucher encore malgré qu'il soit mort. Quand j'aurais écouté ses albums, j'entends des choses que j'avais pas entendues avant, quoi.
Ouais.
Et par contre, il y en a un autre qui m'a touché, on va dire, c'est Django.
Ouais. Django Reinhardt.
Voilà, c'est Django. Je pense qu'il a touché énormément de gens sur cette planète.
Ouais, c'est sûr.
Et c'était la façon de pouvoir s'amuser avec l'harmonie et d'improviser comme ça des thèmes, des notes.
D'accord.
Voilà, on va dire Django.
D'accord. Donc Django forcément.
Mais
en fait,
tu me parlais de chronologie. Non, mais c'est chronologie, ça. Non, mais Django, c'est très bien, c'était plus vers le entre 16 et 18.
Donc c'est ce goût de l'impro effectivement en fait qui t'a fasciné en fait chez lui.
Oui.
Mais ça a provoqué quoi en fait chez toi? C'est-à-dire que toi aussi après tu es rentré effectivement dans cette phase-là.
J'avais envie de faire pareil.
Voilà.
Exactement, j'avais envie de faire pareil. Alors, parce que je suis issu moi d'une formation classique. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait de la guitare classique de 7 ans jusqu'à 22 ans.
Ok.
À 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser au jazz et à l'improvisation. Notamment en écoutant Django.
D'accord.
Et donc c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à bifurquer dans un peu tous les styles et essayer de voir. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que le classique, il y avait aussi le flamenco, je connaissais, mais le jazz, le tango, la variété, la pop, tout ce qui est soul aussi, tout ce qui est Motown et compagnie. J'ai commencé un peu à tout toucher après là.
D'accord. Alors, pour respecter effectivement après la chronologie aussi, donc tu déjà à un moment donné justement quand tu arrives en fait à tes 18 ans, est-ce que déjà en fait pour toi c'était clair le fait de dire et tout que tu voulais en faire ton métier, ou à l'heure actuelle en fait c'est à quelle on va dire phase justement après quand tu as développé ton art que tu t'es dit, est-ce que déjà tu savais déjà que tu voulais être professionnel, ou c'était quelque chose que tu te posais pas forcément en fait de questions?
Alors si je m'en suis posé quand même, parce que j'ai fait des études à l'école
classique
ouais. si je puis dire, voilà. En parallèle je faisais l'école de musique, en parallèle je faisais du sport aussi, je faisais du rugby.
D'accord.
En parallèle aussi j'étais dans un orchestre, un big band de 22 musiciens amateurs.
D'accord.
Moi j'étais le guitariste pompiste, comme on appelle ça, accompagnateur. En fait, j'ai fait ça de 11 ans jusqu'à 25 ans, quoi. Et du coup, pour revenir à ta question, justement, j'ai développé, mais j'ai perdu le fil, je suis désolé.
Concernant sur la partie professionnelle, c'était une évidence, ou justement, après, ça, avec mieux réflexion, ça arrivait plus tard?
Ça arrivait à peu près vers la vingtaine.
D'accord.
Okay. Vers la vingtaine. C'est-à-dire, j'ai passé un DUT génie mécanique et productique à la fac, à la garde, pour rien avoir vu la musique.
Ouais. Comme beaucoup, quoi.
Et donc du coup j'avais chopé une place pour rentrer à l'arsenal de Toulon, vu qu'on a le port militaire.
Ben oui.
Pour bosser dans les sous-marins, dans les bureaux d'études.
À la DCN.
Voilà, la DCN. Et mon père m'a dit c'est cool, tu vas rentrer là-bas et tout, c'est bien et tout. Et c'est là où j'ai réfléchi, j'ai dit non, pas, je veux pas rentrer. Et du coup il a pas compris. Au début il y a eu un peu bagarre, tu vois. Mais je lui ai expliqué.
Et du coup, c'est à partir de là, effectivement, que tu t'es dit que la musique a pris le pas.
En fait, c'est juste que je lui ai expliqué, il a très bien compris. Je lui ai dit, laisse-moi encore un an, j'ai un an à passer encore pour passer un diplôme là-dedans. Ouais. Et puis après, je pourrais gagner ma vie avec ça. Mais au début, j'ai eu un peu les chocottes de rentrer dans le milieu d'intermittent du spectacle, parce que j'entendais pas mal d'échos qui étaient assez négatifs du métier, tu vois.
Bien sûr.
Je suis rentré directement dans l'enseignement, j'ai fait 5 ans d'enseignement. C'est au bout de 5 ans d'enseignement que je me suis lancé vraiment dans l'intermittence du spectacle. Mais j'ai fait des concerts depuis l'âge de 11 ans. Donc en fait, il y a tout qui se chevauche.
D'accord.
Voilà. C'est trop clair. Mais...
Non, c'est très clair. Mais j'allais dire un truc. Bon, je pensais un truc, mais je vais le dire au effort. C'est le profil typique du Toulonnais, quoi. Tu joues au rugby, tu veux rentrer et toi à la DCN.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Fonctionnaire.
C'est un truc de fou, quoi. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Toulon? Non. Alors, moi, j'ai un peu étudié ta bio et tout, etc. Donc, je sais que tu vas rentrer en fait au Conservatoire national de région de Toulon.
Oui.
Donc, est-ce que tu peux être un peu plus explicite en fait, nous renseigner sur les diplômes que tu as obtenus justement au Conservatoire?
Là-bas, j'ai eu mon prix de guitare classique et guitare jazz.
D'accord. Oui, parce que tu nous as dit en fait
c'est
à la base
les deux
que...
disciplines. En fait, j'ai fait la guitare classique de 7 ans jusqu'à. J'ai dit combien? 22 à peu près, je crois que c'est à peu près ça. Et vers la vingtaine, j'ai commencé à m'intéresser au jazz. Je me suis dit, tiens, c'est sympa de jouer avec des gens. Parce que quand tu fais de la guitare classique, tu joues tout seul.
Ouais.
Parce que, en fait, ce que me disait mon maître, si je puis dire, c'est que la guitare, c'est un petit orchestre. Et un orchestre, c'est une grosse guitare. C'est-à-dire que toutes les voix que tu peux affecter au violon, au violoncelle, à la contrebasse, au cuivre, et tout, etc., sur la guitare, tu peux faire la même chose. Sur un piano aussi.
D'accord.
On appelle ça un instrument polyphonique. Tu peux faire plusieurs notes à la fois et plusieurs voix à la fois aussi.
Mmh. Donc tu peux faire chanter ta guitare.
Tu essayes.
C'est dingue, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. On a eu la chance de recevoir Sylvain Luc il n'y a pas si longtemps. Et à un moment donné, je lui ai posé une question. Bon, je ne sais pas s'il a trop apprécié. Parce que je lui ai dit, je me suis rendu compte que tu fais pas mal d'albums et, sans effectivement chanteur ou chanteuse.
Justement, j'ai écouté cette
émission.
Ah,
tu l'écoutais ? Ouais. Et du coup, à un moment donné, bon, il a pas mal pris. Mais après, il me dit, mais Laurent, moi, ma guitare, en fait, je la fais chanter. J'ai pas besoin de chanteur ou de chanteuse.
Tu vois, Émilie dit la même chose.
Exactement.
Avec un peu plus de modestie, j'ai dit j'essaye.
Oui, bien sûr.
Non, mais c'est ouais, ouais. Merci pour ta réponse. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, à ce conservatoire, vers la vingtaine ?
Vers la vingtaine, ouais. J'ai rencontré Andrea aussi.
Oh là là, c'est magnifique. On est en fusion.
C'est pas beau, ça.
c'est beau, ouais. Donc, ce qu'on aimerait savoir, effectivement, par la suite, c'est qu'à l'issue de tout ça, justement, tu embrayes après sur des formations. Tu as monté des groupes et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
Oui, bien sûr.
S'il te plaît.
Alors, je ne sais pas trop par où commencer. Essayer de faire un truc un peu bref, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je parle un peu beaucoup depuis tout à l'heure. C'est pas dans mon habitude. Je suis un garçon assez réservé à la base.
C'est cool. Non, si tu. Est-ce que déjà le nombre de. Je sais que c'est des trios, en fait, que tu as.
Ouais. La plupart. Bon, j'ai commencé, pareil, vers avant la vingtaine, avec un petit trio de jazz manouche, justement, parce que par rapport à Django, qu'on disait tout à l'heure.
Oui.
Donc il y avait Django, et je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi. Il y avait un autre monsieur que j'aimais beaucoup, qu'un oncle à moi me faisait écouter, parce que c'était un copain à lui.
Oui.
Et il s'appelait Chancho.
D'accord.
C'est un peu le Django du Var, quoi.
Ok.
Si je puis dire.
C'est un gitan, manouche.
Ouais. Il s'appelait Chancho. Je crois qu'il avait fait une musique de film qui a été célèbre, je sais plus laquelle, mais.
D'accord.
Enfin, donc du coup, moi, je l'écoutais Django et j'écoutais Chancho aussi.
Ok.
C'est de là où je suis parti, donc dans l'impro, le jazz et compagnie.
D'accord.
Et du coup, ton premier groupe, c'était ?
C'était un groupe de manouche qui s'appelait les Chats Noirs.
Les Chats Noirs,
ouais, les Chats Noirs, parce que petite histoire, le premier concert qu'on a voulu aller faire, ben en fait, on a eu un accident sur la route. On est arrivé à la bourre, on a branché l'ampli ne marchait pas. C'était un peu la galère.
Ouais, donc ça a été forcément.
Et du coup, on n'avait pas de nom à l'époque encore. Et en fait, on fait un super concert. Et le mec dit, comment vous appelez ? On s'est dit, les Chats Noirs, parce qu'on était Chats Noirs depuis le départ. Je vois pas pourquoi. C'était quoi ? Attends, les Chaussettes Noires et les Chats Sauvages.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, les Chats Sauvages.
Il y en a un qui m'a dit une fois, m'a dit, ouais, c'est un mix des deux. Je fais, non,
pas du tout. C'est pas la même explication.
Il y a pas autant de réflexion derrière.
Ok, donc à l'issue après, je pense qu'en fait, tu as eu un peu plus de veine, donc c'était plus les Chats Noirs.
À l'issue, j'ai monté mon propre trio.
D'accord.
Avec mes compositions, avec un contrebassiste qui s'appelle Sam Favreau, qui est de Marseille, et un batteur qui s'appelle Philippe Jardin, qui est maintenant et habite à Signes.
D'accord. Bon, ils sont pas bien loin. Quoi.
Donc, après, c'est la paire, on va dire, de la côte.
Le nom de ce trio ?
Ben, ça porte mon nom, Émile Mélenchon, trio.
D'accord.
Alors, ça, j'ai pas beaucoup joué avec ce projet-là. J'ai dû faire une dizaine de dates après. Et après, je suis parti à.
Ok.
Après, je me suis occupé de d'autres personnes.
Ok. Et le fameux trio, l'eau trio ?
Alors, l'eau trio,
c'était avant.
L'eau trio, c'était après.
Après.
Enfin, d'accord. Non, l'eau trio, c'est après ce que je viens de te dire.
Ok. D'accord. Ok.
Le trio, c'est un trio que j'ai vu, que j'ai monté à Paris avec des copains que j'ai rencontrés là-haut, notamment avec Bastien Ribaud au violon et Rémi Bouissier à la contrebasse.
D'accord.
Et ce trio, lui, il a vu le jour un peu dans les jams à Paris, dans les bars. Moi, c'est beaucoup la rencontre avec Bastien surtout.
D'accord.
Qui m'a marqué quand j'étais à Paris. Et on s'est de suite compris, on s'est lié d'amitié. Il m'a fait venir jouer dans sa région, qui est lui originaire de Toulouse. Et du coup, quand je suis descendu à Toulouse pour jouer avec Bastien, il m'a présenté Rémi, qui est devenu le contrebassiste du trio. Et maintenant, depuis quelques années maintenant, on fait plein de petites tournées. Beaucoup les petits cafés-concerts, c'est un trio acoustique. Donc on peut jouer sans ampli.
Okay.
Et nous, on adore jouer les petites salles dans les petites bibliothèques.
D'accord.
Dans les petites, chez les particuliers. Enfin, ça se fait beaucoup dans le,
dans
le sud-ouest. Là, il y a un réseau chez l'habitant qui est super intéressant. On est en train de travailler sur un nouvel album. Là, on a sorti un album avec eux. Et on est en train de travailler sur un nouveau.
Bah, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait pas mal de petits concerts minimalistes comme ça. Où les gens ils se retrouvaient presque en fait, faire un concert à la maison, dans des salles un petit peu réduites.
Ouais, mais ça existe toujours.
Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, il y a eu la pandémie au milieu.
Et ouais, ouais.
Mais c'est vrai que c'était ça avait un autre cachet, quoi.
Mm. Ouais, c'est, bah après, il faut la musique appropriée aussi.
Par contre, exactement. Par contre, moi, j'avais juste une petite question parce que tu disais en fait qu'à un moment donné, t'es monté à Paris. Ouais. Donc, t'es monté à Paris. Tu jouais justement en fait dans des formations plus importantes ou tu jouais dans des groupes d'autres artistes qui sont plus connus ou.
Alors, pas forcément. Je suis monté à Paris un peu pour me frotter un peu à la graine, on va dire.
D'accord. Pour faire tes armes.
Des musiciens français pour faire mes armes, d'accord. Savoir un peu. C'était un peu pour me tester aussi.
Ok.
Comme je suis un garçon assez réservé, et ouais. Pour savoir. En fait, les gars que je regardais en vidéo chez moi à Toulon, oui. Ben, j'ai pu jouer avec eux, jammer, boire des coups, parler quand j'étais à Paris. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai joué avec plein de gens que j'adore, avec qui j'ai gardé contact, qui maintenant commencent un peu à faire carrière dans le monde du jazz français. Et donc, j'en suis très content.
T'es monté quand déjà ? C'était 2010 ou 2007 ? Je m'en rappelle. 2008 ? 2009 ?
Non, 2009, non. 2012.
2012, d'accord.
Et est-ce que tu as eu l'occasion de faire des enregistrements avec ces différents groupes, d'enregistrer des CD
Oui, bien sûr. J'ai enregistré... Alors, c'était pas vraiment un disque, c'était des vidéos avec une chanteuse qui s'appelait Laura David. Avec il y avait Martin Vergermet à la batterie, Laurent Coulondre au clavier et moi la guitare. Et elle faisait du chant. Après il y avait l'album de Bastien Ribaud avec lequel j'ai participé aussi. Il y avait aussi Laurent Coulondre, il y avait Gauthier Garrigue à la batterie. Et Laurent Coulondre là il était à l'orgamon, du coup il n'y avait pas de bassiste. C'est lui qui faisait les basses et moi la guitare et Bastien au violon et Max Berton, voilà.
D'accord.
Qui était au sax. Donc ouais j'ai enregistré. Bah, après j'ai pas encore tout en mémoire, mais...
Oui.
Mais oui, j'ai enregistré des disques avec les gens que j'adore et que j'aime bien et que maintenant je regarde aussi évoluer.
Ah oui. Bah, Emile, on te remercie pour tous ces détails. Bah,
merci. Donc,
Radio Galère, 88.4.
Le meilleur pour la fin, donc on va passer à la présentation justement d'Andrea. Donc, Andrea... au même titre, en fait, justement, qu'Emile, en fait, peux-tu nous raconter quels sont les plus lointains souvenirs musicaux lorsque tu étais enfant, s'il te plaît ?
Mais écoute, moi, je fais partie d'une famille de musiciens.
Aussi.
Vraiment une famille de musiciens, parce que là, c'était leur métier, quoi. Ma maman est chanteuse, mon papa est saxophoniste. Sauf que mon papa était donc un bon Toulonnais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il était employé à la marine, donc à 38 ans, la retraite, il a fallu se reconvertir. Mais non, il a toujours été musicien et il faisait ça en complément de son activité.
D'accord.
Donc mes plus lointains souvenirs, c'était... je pense que c'est les premiers souvenirs que tu puisses avoir quand tu as 2-3 ans, des brefs souvenirs de...
Ouais.
Donc là, c'était mes parents qui jouaient ensemble dans un orchestre de variété. Et tous les étés, il y avait la fête foraine. On allait manger la barbe à papa avec mamie et papy qui nous emmenaient voir papa et maman jouer. Et puis après, papy et mamie nous laissaient avec papa et maman quand ils avaient fini de jouer. On s'endormait sur les caissons basses, sur les caissons, les baffles.
Ah ouais, donc
on se couvrait avec les housses. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est la réalité. C'était génial.
Ouais, c'est cool.
Parce qu'ils avaient un orchestre de variété... Les grands orchestres de l'époque, hein, les orchestres qu'on retrouve plus trop aujourd'hui, parce que les budgets sont assez limités de nos jours, malheureusement. Et donc, c'est vrai qu'on allait les voir souvent dans ces spectacles. Et voilà, donc c'est trop bien, quoi, la lumière, le machin, les parents qui jouent.
Voilà. Donc c'était comme dans un rêve, c'était une ambiance qui faisait rêver les enfants.
Bah ouais. Ouais, là, on voyait sa maman avec des strass et des paillettes sur scène en train de danser, de remuer. On se disait, elle n'est pas comme ça à la maison, maman, elle est jolie. Hein.
Et du coup, en fait, c'est exactement les mêmes influences que toi que tu mets en avant à l'heure actuelle. C'était quoi, en fait, l'ambiance musicale qu'il y avait chez toi ?
Alors, mon père a toujours été un fanatique de jazz.
D'accord.
De jazz. Et puis, en plus, il est accordéoniste. Donc, j'avais autant le bal musette à la maison toute la journée dans la tête que le jazz et les bossa nova, parce que lui était très branché bossa nova. Et ma mère était branchée, par contre, ma mère est brésilienne, donc elle est née au Brésil, elle a vécu 16 ans à Rio. Et donc sa culture, c'est, je veux dire, quand tu vas à Rio de Janeiro, que t'allumes la radio, t'entends que la bossa, la samba.
Ouais, c'est sûr.
T'entends pas de... Voilà, t'entends pas ce que nous on entend aujourd'hui, quoi. Et du coup, bah, c'était vraiment toutes les chanteuses, Gal Costa, Elis Regina, Regina, toutes les chanteuses et chanteurs du Brésil, quoi.
Bah, c'est
donc
super.
Le jazz, la bossa et le musette.
Il y a ça aussi. Hein. Voilà. Il y a ça aussi. Hein. Ok. Donc, on va reprendre la même chronologie et tout qu'on a fait avec Émile. Donc, puisque tu es rentré en fait à l'école justement après de musique de la Seine-sur-Mer en tant que sénoise. Donc, quels sont tes débuts justement en fait dans cette école?
Alors écoute, je me souviens que ma sœur et moi, on est rentrés en même temps. Ma sœur a un an de plus que moi. Et en fait, on avait un piano à la maison et on se tirait un peu la course avec ma sœur, à savoir qui c'est qui allait jouer mieux le morceau, qui avait relevé d'oreille, etc. Et donc, ma sœur, elle voulait pas faire de piano quand même, elle voulait faire du saxophone. Donc, elle a fait du saxophone. Elle est rentrée à l'école de musique en faisant du saxophone. Et moi, vu qu'on avait un piano à la maison, je voulais rentrer en piano. Sauf que les places étaient assez limitées. Et donc ma mère, elle a fait un peu le forcing. J'ai réussi à rentrer en cours de piano. Et sauf que ma mère a menti sur mon âge. Elle a dit que j'avais 7 ans. J'avais que 6 ans quand je suis entrée en classe de piano.
D'accord.
Parce qu'elle voulait quand même que je rentre au plus tôt pour apprendre plus vite la musique, quoi. Et surtout pour emmener ma sœur et moi le même jour, à la même heure, au conservatoire. Ouais, et pas décaler d'une année, quoi. Et du coup, bah, je suis rentrée en classe de piano à 6 ans. Non, je dis des bêtises, je suis rentrée en classe de solfège à 6 ans, parce qu'à l'époque, tu faisais une année de solfège, et ensuite, tu rentrais à ton instrument une année supérieure, donc à 7 ans. Et donc là, bah, j'ai adoré mes cours à 7 ans, le piano, le solfège. Ça a été toute ma...
Toute ton enfance.
Ouais, toute mon enfance, ça m'a...
C'est ton activité principale.
C'est mon activité principale. Mmh. Malheureusement, j'ai pas fait de sport.
J'allais te dire, tu faisais pas de rugby, toi.
Non, moi, je faisais pas de rugby. Non, pas de rugby. Mais pour mes parents, c'était très important. C'était un peu une obligation, quoi, la musique.
C'est... Ouais, donc c'est eux qui vous ont initié très tôt,
du coup. T'avais pas le choix. Voilà. Bon, on allait le dimanche à l'église et on allait faire de la musique. C'est un autre sujet.
C'est ça. On va pas déborder. Ok. Donc, à l'issue, justement, après de cette école de musique à la Seine-sur-Mer, toi aussi, bah, du coup, on l'a dit tout à l'heure, tu rentrais en fait au conservatoire.
Oui, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait l'école de musique. Et une fois que tu avais atteint un certain niveau à l'école de musique, tu étais obligé d'aller au conservatoire de Toulon pour avoir un niveau supérieur, on va dire.
D'accord.
Donc moi, j'avais fini mon cursus musical dans mon école de musique. Les professeurs qui étaient là ne pouvaient pas m'emmener plus loin, donc ils m'ont dit bah, maintenant il va falloir que tu rentres au conservatoire. Sauf qu'après, ils ont changé le mode de fonctionnement. Toutes les écoles de musique sont devenues conservatoires, qui étaient tous des pôles du conservatoire de Toulon. Et donc, en fait, si tu voulais prendre un cours, t'allais soit à la Seine, soit au Revest, soit à Sifour, etc. Non, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, nous, c'était des écoles de musique, t'arrivais à un certain niveau. Une fois que t'avais fini le niveau d'école de musique, on te disait, bah, toi, tu vas au conservatoire de Toulon.
D'accord.
Et du coup, il y avait une espèce d'élite, entre guillemets, au conservatoire de Toulon. Quand tu avais fini ton cursus à l'école de musique, tu allais à Toulon et puis tu apprenais d'autres choses, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, voilà, en étant devenu des conservatoires rayonnement régional, le niveau il a un peu baissé, quoi.
Ouais. D'accord.
Et donc, donc conservatoire, j'ai commencé en classe de piano et là, ça a été le début de la fin, on va dire.
Ah.
Parce que je suis rentrée dans une classe de piano avec un prof qui ne me convenait pas du tout. C'était pas le grand amour, c'était pas la grande passion, on n'avait pas du tout la même idéologie de la musique. Tu vois, par exemple, moi j'adore faire du piano pour y mettre au maximum de mon émotion, tu vois, quand je vais interpréter un morceau, j'ai envie de l'interpréter à ma façon et mettre mes émotions à moi. Et donc lui, il me disait, ouais, tu respectes jamais l'identité du morceau, ce qu'a voulu transmettre le compositeur.
Ah, mais là, on était dans une mouture classique.
Classique, ouais. Du coup, c'était un peu dommage parce qu'il m'a vraiment mis des barrières, des ponts, des barrières à tout ce que je voulais faire. En fait, moi, je faisais du piano pour vivre le piano, le piano.
Est-ce que c'est pas la discipline en fait qui impose ça? Parce qu'après, forcément, après derrière, il y aura.
Quand on parle avec Émile et de son professeur et de mon professeur, tu vois, c'est pas du tout la même.
Ouais.
Je pense que comme lui, tout à l'heure, il appelait c'est son maître. Pour lui, c'est son maître. Il en parle comme si c'était son père de la guitare, tu vois.
Bah oui.
Pour moi, ça.
Bah, disons qu'il a ce mec-là. La personne dont je parle depuis tout à l'heure, c'est Yves Dubreuil.
Oui.
Voilà. Et en fait, lui, pour moi, il m'a fait une deuxième éducation. Il y a mes parents et il y a lui, dans la musique.
Ben moi, je suis un peu jalouse parce que moi, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là avec mon professeur. Mais j'imagine que si j'en avais eu un autre, ça aurait été peut-être mieux. Parce que là, ça a été, comme je te disais, ça a été un peu le début de la fin. C'est que ça a pas du tout collé. Et au final, je me suis dit, je suis là, je vais essayer. Et au final, après, il me mettait de plus en plus de barrières. J'étais de moins en moins.
Mais ça t'a empêché d'avoir tes diplômes après derrière ou pas?
J'ai pas eu mon diplôme de classique. Voilà. Ah non, j'ai pas eu mon diplôme de classique. Et du coup, après, j'ai bifurqué, je suis allée dans le jazz. Mais bon, moi, j'aime pas, tu vois, faire quelque chose et pas aller jusqu'au bout, tu vois. Donc, j'ai pas eu mon diplôme de classique, mais je voulais plus vivre ça, en fait. Du coup, bon, après, j'ai bifurqué dans le jazz, et là, c'était beaucoup plus cool, parce qu'il y avait beaucoup plus de liberté, justement, de cette émotion que tu peux mettre, de ton émotion que tu peux mettre dans la musique. Ouais. Ça n'a rien à voir.
Soi-même, d'improviser.
Ou alors, tout simplement, le classique, peut-être, en fait, c'était pas fait pour toi, tout simplement.
Non, moi, je pense que c'était fait pour moi, mais parce que j'avais eu une super prof, en fait. C'était une. En plus, ça a été une prof extraordinaire à l'école de musique de la Seine. C'était Mademoiselle Michel.
Ouais.
C'était une vieille mamie. mais elle a. Quand tu vois les élèves qu'elle a eus, cette vieille mamie, Mademoiselle Michel, elle était jeune à un moment donné, mais. Tous les grands musiciens de l'époque de mes parents, ils ont eu Mademoiselle Michel, tu vois. Et en fait, elle avait une façon de faire. Elle était hyper stricte. Et c'est pas le fait d'être stricte ou pas stricte, mais c'est de tisser du lien avec ton élève et puis de savoir comment tu vas faire pour lui faire donner le meilleur de lui-même, quoi.
Ouais, en faire une pépite. Hein.
Voilà.
Ouais.
Et non, moi, là, j'avais affaire à malheureusement, un professeur qui était vraiment très cartésien. Il n'avait pas du tout de vision... sur les côtés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, en jazz, c'est là que ça a été un petit peu plus cool, parce que du coup, en jazz, c'est plus sympa. T'as une espèce de grille avec un thème à jouer, mais ce thème-là, il faut pas qu'il ressemble au thème que tu l'as entendu à la radio, fait par tel artiste. Il faut que tu le joues à ta façon, il faut que tu l'abordes avec ton sentiment, avec ta manière de penser, et ça, c'est extraordinaire, parce que t'es libre, du coup, de l'interpréter.
Oui, c'est la discipline qui veut faire aussi.
Et puis en plus, quand tu es dans le jazz, après tu rencontres les copains et tu fais des ateliers de jazz, tu as un nouveau batteur, un nouveau bassiste.
Alors ça tombe bien, là tu me tends le bâton, là, c'est génial.
Ah oui ?
Ouais, je vais te récupérer dans mon émission. en tant que chroniqueuse, c'est cool. Non, en fait on voulait savoir pareil que Camille, justement à l'issue de tout ça, donc justement tu dis que tu rencontres en fait d'autres musiciens, donc peut-être que c'est tes premières formations. De tes premiers petits groupes avec les copains ou les copines, j'en sais rien.
Écoute, au conservatoire de jazz.
Tu t'es embrouillé aussi.
Non, pas du tout, monsieur. Ah, bon, j'ai que des embrouilles, moi, c'est ça.
Embrouillé tout le monde.
Non, je plaisante.
Oh là là.
Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Non, au conservatoire de jazz, c'est là où j'ai rencontré Émile, au final, dans mes ateliers, avec Arnaud Passini, qui est le bassiste avec qui on joue en quartet.
Ah, oui.
Voilà. Il y avait un super copain à nous, Florian Janiot, un guitariste. Il y avait Willy Caïd aussi. Mais c'est que des mecs que
ça, c'est les premiers groupes que tu as.
Ça c'est les ateliers que tu crées au conservatoire, c'est-à-dire que tu fais des disciplines, que tu fais tes cours avec ton prof particulier, et après tu vas faire tes ateliers de jazz avec un groupe complet, quoi. Donc c'est eux que j'ai trouvé au conservatoire. Donc j'étais vraiment bien lotie, on va dire, parce que
ouais, c'est sûr.
Parce que tu les as choisis eux-mêmes.
Au final, t'as un professeur référent, et ce professeur il dit elle est pianiste, elle est chanteuse, on va la mettre avec le guitariste, puis avec ce bassiste-là, et puis avec ce batteur-là. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est lui qui crée l'atelier. En même temps, il n'y a pas 100 000 élèves, parce que nous, on a été les élèves précurseurs du cursus jazz. Donc, on était vraiment des petites classes, tu vois, il n'y avait pas... C'est pas comme aujourd'hui. Et donc, on s'est retrouvés, mais du coup, on avait des niveaux un petit peu disparates. Je pense que moi, j'étais pas du tout au niveau d'Émile. Mais en même temps, j'avais une formation classique, donc j'étais bien meilleure lectrice que Arnaud à la basse, mais lui avait beaucoup plus de liberté dans son instrument parce qu'il était autodidacte. Donc c'était. Mais c'est ça qui est cool, c'est parce que tu tisses des liens avec des mecs qui ont des bagages, mais qui ne sont pas les tiens. C'est pas tes bagages à toi, mais toi t'en as d'autres, et puis du coup ça fait une espèce de cohésion.
Tout à fait. Mais le premier groupe, en fait, tu as quand même des souvenirs et tout de ton premier groupe.
Après, mon premier groupe. En fait, c'était grâce à mon papa.
D'accord.
Mon papa, il m'a fait monter mon premier groupe, donc qui s'appelle Mangrove.
D'accord.
La Mangrove, qui est la rivière brésilienne.
D'accord.
Et on peut l'appeler Mangrove aussi, parce que Yeah man, ça groove.
Ah,
mais bon, ça ne vous revient pas du tout, c'était de la bossa nova.
Ouais, ok.
Donc avec mon papa, on a monté ce groupe-là avec son frère qui s'appelle José Caparros, qui est un super trompettiste de jazz aussi, qui est professeur au conservatoire de Toulon, en jazz aussi.
Ok.
Donc c'était, j'avais un groupe, voilà, j'étais la seule jeune, il n'y avait que des vieux avec moi, donc il y avait... Je rigole.
Cool.
Non, il y avait mon papa, il y avait Philippe Jardin justement, parce qu'Émile, il a eu son premier trio qui s'appelle Émile Mélenchon Trio, et son batteur était... Et Philippe Jardin, c'est toujours le même. Hein.
Uh-huh.
Donc moi, pareil, mon premier batteur, ça a été Philippe Jardin.
D'accord.
Donc c'est rigolo, tu vois, déjà...
Ouais.
J'ai eu mon professeur de piano en cursus jazz qui s'appelle Marc Boscarini, qui a été aussi mon pianiste dans mon premier groupe. Donc, pardon, c'est le monde est assez petit quoi, dans ce milieu-là.
Donc, merci en fait pour cette réponse. On vient d'écouter un morceau, donc, enfin moi j'ai pris une version et tout un petit peu particulière et tout de Bob Berg, donc c'est de Jazz Times Super Band. Et donc le titre et tout c'est Friday Night at the Cadillac Club. Donc ça date des années 2000, là c'est issu en fait d'une compilation. En fait, je voulais savoir en fait qu'évoque pour vous ce morceau.
Friday Night at the Cadillac Club. Tu te rappelles ? Non. On jouait ça en atelier avec Claude Basso.
Ben, en fait, ça me rappelle l'atelier, ouais.
Ouais, c'est ça.
Tout simplement.
Ouais, okay. quand on
non, mais en fait, c'est vrai que, comme elle disait tout à l'heure, quand t'as un atelier, c'est expérimental.
Oui.
Ça se dit comme ça. Ouais, c'est bon. Du coup, tu expérimentes plein de choses. Et du coup, nous, on était là pour apprendre à jouer ensemble, jouer avec les autres.
Mmh.
Et ce thème-là faisait partie de la liste longue de standards qu'on jouait.
Et moi, je kiffais jouer ce morceau, je me rappelle. Mais en plus, c'est un morceau de Bob Berg, c'est un sax.
Ouais.
Il n'y avait pas de sax là, donc c'était clavier, guitare, basse et batterie.
Mm.
Donc c'était rigolo de jouer un standard joué par un sax, par nous, soit guitare, soit... Ça peut pas coller parfaitement, tu vois, mais c'était rigolo.
À l'issue, effectivement, après vous avez fait justement tous les deux en fait un duo. Est-ce que c'est quelque chose qui était évident pour vous, puisque justement après vous aviez pas mal pratiqué ou vous êtes pas mal exercé justement après pendant le conservatoire, de vous lancer après en duo tous les deux, et même puisque après vous nous avez parlé en fait d'Arnaud, est-ce que c'est quelque chose en fait qui était naturel de vous lancer en fait tous les deux en duo,
oui.
Ou parce qu'après je sais pas, on peut avoir après d'autres trajectoires ou d'autres réflexions et tout là-dessus.
Au début, on a commencé à jouer ensemble. Émile était toujours sur Paris. Moi, je venais de redescendre sur Toulon parce que moi aussi, j'étais en région parisienne pendant quelques temps.
Mmh.
Et en 2012, je suis redescendue à Toulon et j'ai commencé à beaucoup plus jouer parce qu'avant, j'étais professeur de piano aussi.
D'accord.
Et quand je suis montée à Paris, j'ai arrêté la profession de cours de piano. Je suis redescendue à Toulon et j'ai commencé à être musicienne professionnelle.
Mmh.
C'est là que j'ai joué avec des guitaristes, et sauf que quand les guitaristes n'étaient pas dispo, j'ai commencé à appeler Émile. Émile était toujours dispo, même s'il était sur Paris, à redescendre pour venir partager la musique avec toi, et puis aussi pour faire son statut d'intermittent, parce que quand tu commences, c'est assez difficile, et surtout quand t'es à Paris, parce que Paris, c'est un grand nom, mais Paris, ça joue pas non plus pour les mêmes budgets qu'ici, dans le Var.
Et surtout pour pas perdre... Pour pas couper le cordon totalement non plus avec la ville où tu es né.
Oui, bien sûr.
Où tu as tes amis, ta famille, etc.
C'est ça,
tu vois,
c'est ça.
Et donc au début, voilà, je l'appelais pour remplacer les guitaristes avec qui je jouais et qui n'étaient pas dispo.
Mmh.
Et au final, quand tu commences à jouer avec Émile, tu te dis, mais en fait, c'est avec lui que j'ai toujours envie de jouer, quoi. Et ça, je le savais, parce que c'est pareil, quand tu fais un atelier à 16 ans ou à 17 ans ou à 18 ans avec Émile... à la guitare, et que tu changes de guitariste dans l'atelier, tu fais oh, c'était cool l'atelier avec Émile. Donc bon, du coup on a commencé à jouer un petit peu ensemble comme ça, sauf qu'après on s'est dit ça serait cool plutôt que de faire que de l'animation, d'essayer de créer notre répertoire et... Donc on a commencé à
et de faire vos propres compos quoi.
Ouais
c'est ça.
Ouais, du coup j'ai proposé une rythmique en vrai. Moi j'avais déjà beaucoup joué avec Arnaud à l'époque parce que on avait un autre groupe dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était avec un chanteur qui s'appelle Willy Caïd.
Oui.
Et ce groupe s'appelait Will the Blue Griot. Après, ça s'est séparé. Mais j'avais beaucoup joué avec Arnaud. Je connaissais bien Arnaud.
Mm.
Et j'avais joué un petit peu aussi avec Jesse à l'époque, mais je le connaissais un peu moins. C'était Arnaud qui le connaissait plus. Mm. Et Jesse, pareil, je l'avais rencontré à Paris, j'avais joué avec lui à Paris et tout. Ouais. Mais en fait, il était du sud aussi, mais la rencontre s'est faite là-haut. Il était de hier, Jesse. D'accord. Et du coup, j'ai proposé à Andrea de qu'on se fasse accompagner par Jesse et Arnaud, qui sont devenus
nos acolytes.
Pour parler rugby, les titulaires.
C'est ça, c'est ça. Ben, en fait, j'ai une question à vous poser à l'issue par rapport à ça, parce que on peut voir à un moment donné, en fait, on parle de quartet, quintet. Donc, c'est pour ça que je disais, bon, là, vous parlez en fait avec d'Arnaud et Jesse, vous composez en fait un quartet. Donc, cette formation musicale, en fait, vous sied à merveille. Où vous êtes en fait déjà posé la question en fait sur le fait d'intégrer d'autres musiciens qui viendraient compléter cette formation, parce que j'ai vu pas mal de justement après d'articles sur vous où à un moment donné justement vous êtes dit est-ce que c'est un quartet ou c'est un quintet. Donc à l'heure actuelle, est-ce que la formation en fait est figée ou vous êtes encore open?
Franchement, on a eu une grosse période de réflexion et je pense que c'est normal. Et aujourd'hui, je pense que la formation, c'est un quartet, c'est rien de plus.
D'accord.
Voilà. Sauf qu'à un moment donné, on s'est dit... En fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est que quand on a commencé à jouer ensemble en quartet, ça s'est très très vite... Tout s'est très vite enchaîné. Mmh. On a commencé à avoir plein de dates alors qu'on n'avait pas de disques. Je me rappelle le premier mois d'avril, on a commencé à jouer ensemble, quoi. On a commencé à faire nos premiers concerts. Mmh. On a eu genre 22 dates au mois d'avril, quoi, avec le quartet, des dates de compo, mais dans toutes les mairies, tous les festivals de jazz, etc. Mmh. Et au final, on n'avait rien, on avait juste un set de compo touricrac, tu vois, qui faisait l'affaire. Mmh. Et on n'avait pas de disque, en fait, on a fait un peu les choses à l'envers. On aurait dû, tu vois... Et donc, une fois qu'on a sorti le disque, bah, on avait déjà joué dans tous ces endroits où on avait été programmé. Ils ont dit, non, mais même si vous avez le disque, vous êtes passé l'année dernière, vous êtes passé l'année d'avant,
ouais, c'est sûr.
On ne peut pas vous reprogrammer deux ans d'affilée. Quoi.
C'est sûr.
En fait, ça a été un peu fait là. Et donc, ça nous a forcé à réfléchir, à savoir est-ce qu'on ne pourrait pas changer un peu la formation, ou peut-être changer d'identité, ou peut-être arrêter les compos, faire de l'arrangement de musique brésilienne, un peu plus vraiment dans la tradition de la samba, etc. Pour essayer de pouvoir jouer à nouveau. Tu vois,
bien sûr.
Donc on s'est posé des questions, mais sauf qu'aujourd'hui, on est certain, on a beaucoup discuté là depuis un an avec les garçons, on est certain que notre quartet, c'est un quartet. T'es
génial.
D'accord avec moi ?
Bien sûr.
Ah bah c'est parfait, sûr. Parfait. Alors, puisque là tu parlais effectivement on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure effectivement de l'album qui est sorti Peace of Mind en 2019.
Fin 2018.
Voilà.
Mai 2018.
Alors, nous on a une question justement sur votre prochaine actualité du moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ?
Alors, la plus propice, je sais pas si on peut dire ça, c'est on joue lundi soir.
C'est pas le fait de jouer, c'est que moi en fait ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a un autre album et tout qui est en préparation. Est-ce que vous effectivement vous avez d'autres compos ou vous continuez à jouer effectivement après encore, vous faites la promotion et tout de ce Peace of Mind.
Alors
voilà, c'était ça l'objet de ma question, peut-être que j'ai mal formulé.
Oui non. En fait depuis Peace of Mind on a rencontré un peu des gens là qui nous ont quoi, surtout quelqu'un.
Oui.
On a rencontré quelqu'un, un producteur, qui nous a dit « Les gars, j'adore ce que vous faites, mais vous faites tout et n'importe quoi. Et vous le faites bien, tout et n'importe quoi, mais il va falloir... »
Il vous a recadré.
Ouais, il va falloir retrouver... Il va falloir trouver une seule voix à votre musique et puis essayer de trouver un public ciblé et savoir qu'est-ce que vous voulez faire vraiment de votre quartet. Parce que tu peux faire de afro-américain, tu peux faire du brésilien, tu peux faire de l'anglais, tu peux faire une espèce de mélange de classique, tout ça. Mais non, il faut qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait un public ciblé. Donc ça fait justement, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça fait un an qu'on réfléchit beaucoup tous les quatre et qu'on s'est bien dit que c'est vraiment un quartet et que la base du truc aujourd'hui c'est, en gros c'est un quartet de brésilien 2.0. Voilà, c'est du brésilien sans être du brésilien. Bon. Et c'est du brésilien, mais avec les influences un petit peu de chacun.
Alors.
D'accord avec moi ?
Tout à fait.
Oui.
Alors, je pense savoir en fait de qui tu parles, donc c'est pour ça qu'on va mettre les pieds dans le plat et on va parler de lui, quoi. Donc, nous avons déjà reçu au sein de notre émission de la Cité Métis des artistes en fait de Just Looking Production, comme Aïe de Faïs. Et donc d'ailleurs, en fait, on ne remerciera jamais assez Alexandre Lacombe. Nous avons mis en contact avec eux. Donc, peux-tu nous expliquer ? Donc, c'est bien de lui que tu parlais tout à l'heure.
Oui, c'est ça. Okay. C'est lui le...
Donc, tu peux nous expliquer justement, en fait, comment vos chemins et tout se sont croisés ?
Écoute...
Tout simplement.
Tout simplement, comment s'est croisé nos chemins ? Rien du tout. Moi, j'étais à la maison, en train de faire je sais pas quoi, et puis j'ai eu un message, et j'ai dit à Emile, ouais, encore un mec, là, qui veut soi-disant nous booker ou je sais pas quoi. Ouais. Machin, producteur, mon œil, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages, tu sais, en te disant, oui, est-ce que tu veux rentrer dans mon book ? Par contre, c'est payé 100 euros net le concert. Quoi, 100 euros black le concert. Bon, c'est pas possible, quoi, tu vois. Et par contre, c'est moi qui ai la... Comment on appelle ça ?
En fait, il nous a découvert par le biais d'une artiste qui s'appelle Calloway. Je sais pas si tu connais. C'est une chanteuse qui est de Paris.
D'accord.
Et en fait... Il regardait pour essayer de s'occuper d'elle aussi. Et il est tombé sur une vidéo. Ouais. Parce que Calloway, c'est une copine à moi de l'époque quand je jouais à Paris. Mm. Et donc, elle connaît très bien Andrea aussi. Et elle fait des vidéos chez elle.
D'accord.
D'artistes qu'elle aime bien. Et elle savait qu'on était de passage sur Paris un de ces jours-là. Et elle nous a fait venir. On a fait une vidéo avec elle.
Okay.
Donc, elle l'a mis dans son... Comment on appelle ça ?
YouTube, quoi.
Ouais, dans son YouTube.
Sa chaîne YouTube. Mm. Et donc, Alexandre, quand il a regardé Calloway... Mm.
Il nous a vu.
Parce qu'il s'intéressait à elle. Ouais. Et bien, il nous a vus. Et tilté. Du coup, il s'est intéressé à nous aussi.
D'accord.
Voilà, ça s'est croisé. C'est par le net que, en gros,
C'est très clair. C'est cool. C'est cool. Bah, c'est très bien. Ok.
Après, du coup, l'actualité, tu nous parlais d'actualité tout à l'heure.
Oui.
Du coup, l'actualité, c'est que.
Vous allez aller à Paris.
On est en train de créer, du coup, ce nouveau projet André Caparros Quartet 2.0 Brésil, tu vois.
D'accord.
Et du coup, ce qui veut dire de remanier notre répertoire existant, parce que des fois il était trop dans la tradition, ou des fois il était hors circuit, c'était pas bon, tu vois.
D'accord.
Et on est en train de composer des nouveaux morceaux, dans cette nouvelle dimension musicale qu'on a.
Ok, super.
Et demain, par exemple, on part à Paris, on va passer deux jours.
D'accord.
De trois jours en studio, là, justement, avec Alexandre, de lui montrer un peu tout ce dont on a. Qu'est-ce qu'on a fait tout seul de notre côté dans le Grand Sud, là ? Et puis après, on va lui montrer et essayer d'y réfléchir tous ensemble, quoi. Savoir si on est sur la bonne voie ou pas.
C'est génial.
Facile alors de se laisser guider maintenant par un producteur qui dit qu'il faut rester dans un format, prendre une direction ou...
Mais écoute, je pense c'est plus...
Tu ne peux pas guider André Caparros.
Non, je dis ça. Non, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui est extérieur au projet, qui n'a pas
le mec qui porte un regard différent.
C'est beaucoup plus subtil que ça. En fait, lui, ce qu'il apporte, il te dit pas comment il faut faire. Et en fait, il t'aide à te trouver toi-même. En gros, c'est un peu ça, quoi.
D'accord.
Non, peut-être que lui, il a décelé effectivement certaines choses qui, pour essayer en fait d'exploser, en fait, tout simplement.
C'est
peut-être pour ça après qu'il lui vous apporte effectivement ce regard extérieur. Comme tu l'as dit en fait jusqu'à présent, parce qu'après, nous on a rencontré beaucoup de musiciens qui sont très talentueux, mais après la partie, c'est un vrai métier en fait, comme tu parlais de 2.0, donc ça a trait à l'aspect presque communication, regard extérieur, toute cette partie-là. Nous on le voit effectivement sur des artistes à Marseille, après dans notre environnement, c'est très compliqué pour eux de communiquer, même si les réseaux sociaux sont à la portée de tout le monde, et c'est un vrai job. Donc alors que vous êtes effectivement centré sur la partie en fait qui est purement en fait musicale. Donc je pense que c'est peut-être cette partie-là justement qui veut recadrer avec vous. Enfin moi.
Oui, après moi je pense que c'était déjà la partie musicale. Il a vu, je pense qu'il y avait du potentiel.
Oui. Bah
il y a
oui.
du potentiel ouais. et du coup il a voulu mettre le doigt sur. Il faut que tu saches où tu veux aller quoi. Faut que tu saches pourquoi tu fais ça. Faut que tu saches pour. Et en fait il te fait te poser des questions pour lesquelles tu te poses pas des questions comme ça quoi quand t'es musicien. Tu vois, tu fais ça parce que tu kiffes, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu kiffes. Ah mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche.
Ouais, ouais.
Et pour qui tu fais ça?
Après il y a un autre truc aussi qui rentre en jeu, c'est que venant d'une formation classique tous les deux, on a forcément appris la tradition.
Oui.
Ouais, mais
la musique dans la tradition. Donc une fois que tu as la tradition, que tu connais plusieurs sortes de traditions, pourquoi tu la moderniserais pas ?
Oui.
En gros, son, 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 son clin d'œil à Alexandre, c'est un peu ça. C'est, vous connaissez la tradition, bah, arrêtez de jouer la tradition telle qu'elle est, faites-la vôtre, quoi.
D'accord.
Tu vois un peu ce que je veux dire. En gros, c'est un peu ça, quoi.
Moi, je vais vous dire, après, quand on voit après avec qui il travaille, le simple fait et tout qu'il vaut contact, c'est déjà, comme je disais tout à l'heure, Maï de Faïs, voilà, il y a Sly Johnson, il y a André Secarelli, donc voilà, il y a quand même. Ouais, Sylvain Luc, bah c'est grâce à lui justement qu'on a réussi à rentrer en contact avec Sylvain. Donc déjà, en partant de là, il y a une sacrée pléiade d'artistes. Quoi. Ouais. Bah écoutez, on n'aime pas... Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous écouter tout en live. Donc c'est le moment du live tant attendu. Et on va se quitter. Déjà, on voulait vous remercier justement tous les deux encore une fois, au nom de toute la team. Saverine, bien entendu, se joint à nous également. Pour vous remercier et tout d'être venu au sein de notre émission.
Ben merci à vous, ça a fait très plaisir.
C'était vraiment sympa de votre
carrément.
Part.
Merci beaucoup.
Aproveita. disfruté. Todas lágrimas, tempo das coisas thank you.
Donc les amis, la LCM Jazz 26 se termine. Donc un grand merci à nos auditeurs et auditrices pour leur écoute et leur fidélité. Un immense merci à nos musiciens du jour, Andrea Caparros et Émile Mélenchon. Nous avons été honorés de vous recevoir tous les deux sur le plateau de la radio. Ce fut un réel plaisir de vous voir jouer en live. Pourriez-vous s'il vous plaît, Andrea et Émile, nous rappeler l'ensemble de vos réseaux sociaux, ce qu'on disait à l'instant, pour que nous puissions suivre au plus près votre actualité?
Eh bien, vous pouvez nous trouver sur Facebook ou sur...
YouTube.
Sur YouTube.
Vous avez une page YouTube.
Okay. Une page YouTube, il y a une page vidéo André Caparros, une page vidéo Émile Mélenchon.
D'accord.
Pareil sur Facebook. Une page,
et bientôt sur Instagram.
Et on est aussi sur Instagram.
Depuis peu.
Depuis peu, donc il y a peut-être pas trop de...
Ouais, c'est ça. On n'a plus trop le choix.
Exactement.
C'est ça. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a encore.
TikTok.
TikTok. Ça, je préfère mourir. C'est vrai.
Après, vous pouvez. Il y a le disque aussi. Bon, après, ça va l'avoir, mais sur Spotify et tout, etc.
Oui, bien sûr. Puis, sûrement, il est tout sur les.
Je crois que sur Spotify, quand on tape le nom d'un artiste, on peut voir ce qui est. Tout à fait. Quel disque il a joué et tout, etc. Donc,
exactement.
Il y a tous les autres disques qui peuvent être en lien.
Tout à fait. Ben, il y est sur Spotify. Oui.
Donc, Andrea Caparros Quartet. Un P, deux R. Andrea Caparros Quartet. Émile Mélenchon aussi, vous pouvez le trouver avec plein d'autres artistes.
Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry.
Donc je vous rappelle que la Cité Métisse est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille, sur radiogalère.org et sur le canal 8C du DAB+. L'émission sera rediffusée sur la bande FM le samedi 11 décembre 2021 à 14h. Restez connectés avec nous sur la page Facebook de la Cité Métisse et sur le Mixcloud de l'émission, mixcloud.com/lacitémétisse, pour suivre nos précédentes émissions.
On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'épisode hashtag 27 de la saison 3 de la Cité Métisse. Du lundi 3 janvier 2022, avec un concept en évolution, de nouvelles surprises et de nouveaux intervenants. Un peu en avance, nous vous souhaitons, au nom de tous les membres de la team de la Cité Métisse, de très belles et joyeuses fêtes de fin d'année. Bon bout de temps.
À bientôt les amis, à bientôt Adrien, à bientôt Émile. Bye bye Fred,
bon bisous.
Ciao, ciao.
Merci.